La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, je suis Camille Oudilly, je suis pasteur à l'Assemblée chrétienne de Toulouse et aujourd'hui je voudrais aborder avec vous le sujet de la générosité. La générosité, c'est une vertu, c'est un trait de caractère que Dieu manifeste et qui nous appelle à avoir. Avant de lire le texte que nous allons davantage étudier, je vais commencer par un verset d'introduction. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un verset très important qui montre que le chemin du salut est en Jésus et qu'il est le Fils de Dieu. Ce verset met aussi en lien l'amour et le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu donne ce qui lui est cher. Dieu a tant aimé qu'il a donné. L'amour et le don sont liés. L'amour et la générosité sont liés. Et nous qui sommes au bénéfice de cet amour, nous sommes remplis et transformés pour changer, ça va changer nos cœurs. Et cet amour va venir nous aider à aimer de la même façon que Dieu. Ou y tendre au moins. C'est ce dont parle le texte dont je vais faire la lecture. Et c'est dans 1 Jean 3, verset 16. C'est un peu, pas le parallèle, mais le pendant qui parle de nous de Jean 3, 16. Jean 3, 16 parle de l'amour de Dieu. 1 Jean 3, 16 va parler de l'amour de Dieu que nous allons manifester, donc de l'amour humain transformé par Dieu. Donc 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Et ces quelques versets sont un appel à ne pas vivre pour nous-mêmes. C'est un appel à donner ce que nous avons. Nous qui avons connu l'amour, ça commence comme ça, nous qui avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Alors déjà, je veux vous interpeller, est-ce que vous avez connu cet amour? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez dès aujourd'hui croire et déclarer que Jésus a donné sa vie pour vous, pour moi, mais vous l'appropriez aujourd'hui. Vous pouvez, en demandant pardon à Jésus pour vos fautes et en croyant qu'il a payé le prix parfait sur la croix et qu'il est ressuscité des morts, vous pouvez recevoir le don de Dieu. Vous pouvez ouvrir vos cœurs à lui pour recevoir cette vie éternelle. Et il vous fera le cadeau du Saint-Esprit qui va venir vivre en vous. C'est déjà un magnifique voyage. Et ensuite, nous qui avons connu l'amour, nous aussi nous devons donner nos vies pour les frères. C'est ce que dit ce passage. Quelle exigence! Ça semble beaucoup trop haut. Le standard de Jésus est tellement élevé, qui peut l'atteindre? Ce texte dit que nous n'avons pas besoin de mourir pour donner nos vies pour nos frères. Certains dans le monde le font, et parfois ça peut arriver, de devoir donner sa vie. Mais dans nos quotidiens, ça semble déjà tellement loin que ça, on pourrait se dire que ça ne nous concerne pas. Mais la suite du texte dit que cela concerne les biens du monde et du fait d'être généreux et en donnant et en répondant aux besoins. Donc nous n'avons pas besoin de mourir pour donner nos vies pour les frères. C'est une bonne nouvelle. Mais nous sommes encouragés et même il nous est demandé de commencer à apprendre à partager nos biens. Aimer, c'est répondre aux besoins. Aimer un petit enfant, c'est répondre à son besoin d'affection, de nourriture, de chaleur, de sécurité. Aimer quelqu'un dans ce monde, c'est répondre à ses besoins. Alors, pas à tous, mais en tout cas à ne pas fermer nos cœurs. Être généreux et savoir ouvrir ça en son porte-monnaie. Donner à manger, être solidaire, ouvrir sa porte. Dans ce passage, il est question de fermer ses entrailles. Dans notre société, on parle d'être touché dans nos cœurs, de fermer nos cœurs. Mais la Bible parle des entrailles. Ça se comprend quand on pense aux expressions « cette histoire m'a tordu les boyaux ». C'est une expression qu'on peut entendre à propos de situations difficiles qu'on peut entendre. Ou quand on voit quelque chose de difficile et qu'on raconte et on dit « ah, j'en ai eu mal au ventre ». Ce ventre, ces entrailles, qui sont si sensibles à nos émotions de compassion, de peur, d'affection, Dieu nous demande de ne pas les oublier, de ne pas être insensible à leurs cris. Nous pouvons être tentés de fermer nos cœurs pour ne pas être interpellés par la misère du monde entier qui nous entoure. Mais il y a là une demande de Dieu de ne pas être insensible à ses entrailles. Alors laissons-nous interpeller, laissons-nous toucher par les situations autour de nous. Accueillons ces ressentis, accueillons ce que Dieu nous dit au travers de nos entrailles et allons au bout de ce qu'on ressent en faisant quelque chose. Et c'est ce passage dit, si nous fermons nos entrailles, comment l'amour de Dieu, c'est écrit plus exactement, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? L'amour de Dieu va se montrer en nous si nous ne sommes pas insensibles. C'est une manifestation extérieure d'un amour que nous recevons à l'intérieur. Nous ne pouvons donc pas nous professer chrétiens et dire que nous avons reçu l'amour de Dieu si autour de nous, les gens ne voient en nous que des gens qui sont radins, avec le cœur fermé, qui ne veulent pas s'intéresser aux autres. Ce sera comme une manifestation extérieure. Alors évidemment, nous ne nous laissons pas dicter par les jugements des autres, mais nous-mêmes, nous regardons à nos cœurs pour voir dans quel état nous sommes. Nos entrailles fermées. Ça parle du besoin d'aimer davantage, oui. Mais parfois, pour aimer davantage, on a besoin d'être rassuré. Et d'être rassuré qu'on aura assez. Besoin d'être rassuré que Dieu pourvoit. Si j'ouvre mes entrailles, que va-t-il se passer ? Est-ce que je n'aurai plus assez pour moi, pour ma famille ? Si je commence à donner tout, qu'est-ce qui va se passer pour moi ? Nous avons besoin de connaître profondément que Dieu va pourvoir. Ça tombe bien, parce que Dieu pourvoit, c'est un des noms de Dieu. C'est drôle parce qu'en cela, dans ce mot, il a déjà pourvu au fait de nous rassurer sur le fait qu'il va pourvoir. Ce nom de Dieu, c'est Jéhovah Jiré. On le voit dans Genèse 22. Quand Abraham va donner son fils en sacrifice et que Dieu pourvoit avec un agneau qui va remplacer son fils. C'est Dieu qui a demandé quelque chose et finalement Dieu pourvoit pour la chose qu'il a lui-même demandé à l'homme de faire. Et dans ce passage, Jéhovah Jiré, c'est une révélation de qui est Dieu. Il voit et il s'occupe lui-même d'apporter ce qu'il faut pour les choses qui sont de son standard à lui. Son standard est trop haut et trop élevé pour nous. Mais lui, il pourvoit, il nous demande, ça nous étire, ça nous vient nous travailler à l'intérieur. Mais la finalité, ce ne sera pas nos efforts. La finalité, c'est d'abandonner, de dire, ben en fait, c'est trop pour moi, ce standard est trop élevé, mais je veux faire ta volonté. Et là, Dieu pourvoit. Jéhovah Jiré, ça veut dire Dieu qui pourvoit. Il voit les problèmes, il voit les difficultés. Et il s'occupe d'apporter ce qu'il faut. Combien de fois nous tenons de toutes parts les situations ? Nous nous inquiétons. Nous essayons de contrôler, nous tenons les choses fort pour pas que ça s'effondre. Notre Dieu sait, il voit et il pourvoit. Nous pouvons lui donner nos fardeaux, lui confier nos difficultés, faire confiance. Il va s'en occuper. Nous pouvons aussi, pour grandir dans la générosité, plonger nos regards dans les lois spirituelles. Dans le monde, c'est peut-être la loi « travailler plus pour gagner plus » qui est mise en place, prônée et qui fonctionne dans certains cas et souvent dans le monde. Mais dans le royaume, il n'en est pas ainsi. Il y a un principe divin dans la générosité. Il y a ce verset dans Proverbe 11, 25. Proverbe, c'est un livre qui donne beaucoup de conseils et de... Voilà, des proverbes, selon le mot français aussi. Hein. Donc ce verset, dans Proverbe 11, 25, nous dit « L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. » L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Waouh ! Alors, donc on voit là que l'expression de l'arroseur arrosé est finalement biblique. Et que c'est vraiment un principe divin que le fait de semer, de donner, d'arroser quelque chose en croyant que ça va revenir, que ça va revenir vers nous. On ne le fait pas pour ça, mais en croyant qu'on va avoir en tout cas assez et qu'on aura tout ce qu'il faut. Dans Luc 6, 38, on le voit aussi. Il est écrit « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Waouh ! « Donnez et on vous donnera. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » C'est une loi du royaume, une caractéristique de Dieu qui va démontrer dans nos vies. Si nous en saisissons, il va le démontrer, il va se manifester, il va être Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit, si nous nous saisissons de ça et que nous mettons notre foi dedans. Si nous donnons aux autres, nous aurons tout ce qu'il faut. Cela nous reviendra. Donnez et on vous donnera. Le monde parle de karma, mais nous savons que c'est le cœur même de Dieu. C'est pas une loi lointaine, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui a son regard sur nous. C'est Dieu qui nous tient la main, qui se tient à côté de nous. Il a donné aux hommes un monde magnifique. Il est lui-même tellement généreux. Il a tout créé pour notre joie, pour notre plaisir. Il nous a donné de la nourriture dans ce monde. Il a donné une intelligence pour construire des choses. Il nous a donné les liens relationnels pour combler nos besoins relationnels. Nous a donné tellement, tellement. Il a tout mis. Il a tout donné à l'homme. Il est généreux. Nous avons un bon Père dans le ciel. Et il est là déjà avec nous. Il est généreux aussi quand il nous pardonne nos fautes. Il ne nous donne pas ce que nous méritons avec nos actions, mais il donne même en Jésus le paiement de ce que nous avons fait de mal. Et là, avec ça, on voit que la générosité n'est pas que financière. Dans le pardon, dans toute cette générosité, nous pouvons entrer. Nous soyons généreux en pardon. Soyons généreux en gentillesse, soyons généreux dans des cœurs qui ne sont pas orgueilleux pour retenir la faute des autres et pour leur balancer au visage. Soyons généreux en gentillesse, soyons généreux en prévenance, soyons généreux dans le regard que nous portons sur les autres, dans les paroles que nous déclarons sur eux. Soyons généreux. Comme Dieu, nous sommes appelés à être lents à la colère et riches en bonté. Riches en bonté, ça parle de cette générosité. Soyons généreux en bonté. Mais c'est vrai que pour vivre cette générosité, c'est tellement important de connaître ce Dieu qui pourvoit pour nous, que je veux encore vous encourager. Dans le psaume 23, il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et on peut regarder à nos passés et dire, mais j'ai manqué d'argent, j'ai manqué de soins, j'ai manqué de relations, j'ai manqué d'affection. Dans nos vies, dans nos passés, il y a toujours des signes comme ça, de manque. Et le manque, c'est une loi du monde, une loi des choses qui sont déchues, une loi du monde des ténèbres, que les choses manquent, qu'on soit aigri, qu'on soit blessé. Mais la loi de l'amour surpasse tout ça. Elle surpasse le manque. Elle croit de nouveau, elle donne de nouveau. Mais c'est d'abord en Jésus. Alors si vous avez manqué et que vous trouvez que vos cœurs en effet sont fermés et n'arrivent plus à donner en relation, n'arrivent plus à s'ouvrir pour faire confiance, n'arrivent plus à ouvrir le porte-monnaie en pensant que de toute façon on aura assez, quoi qu'on donne. Si vous trouvez ça dans vos cœurs, retournez vers Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand nous avons souffert, nous reprenons quelque part le contrôle de nos vies. Nous reprenons le contrôle de ce qui nous a fait mal. Nous reprenons le contrôle. J'ai été déçue, je ne redonnerai plus ma confiance. J'ai donné de l'argent et ça a été mal utilisé, je ne donnerai plus d'argent. Et nous, comme ça, en faisant ça, nous redevenons nous-mêmes nos propres bergers. Sauf que nous n'avons pas la grande image. Nous n'avons pas pourquoi les choses se sont passées. Et nous agissons comme ça sur la blessure. Alors l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous amène à donner nos vies encore et à dire Jésus, tu es mon berger. Sois le berger de mes finances, sois le berger de mes relations, sois le berger de mes paroles quand je me ferme, sois le berger de mon affection quand je ferme mon cœur et que j'arrive plus à donner. Si l'Éternel redevient notre berger, alors nous pouvons regoûter de nouveau au fait que lui, il pourvoit. C'est comme une source dont nous nous coupons. Alors nous nous coupons de la source et après nous sommes déçus et tristes et nous disons tu vois bien que je manque. Donc Dieu ne pourvoit pas. Mais mettons nos foi dans la source. Si nous contrôlons les choses nous-mêmes, la source ne peut pas couler pour nous. Parce que nous sommes fermés, nous ne voyons plus les opportunités, nous ne recevons plus l'amour de Dieu. D'une façon ou d'une autre, nous serons écartés du plan. Du plan d'amour de Dieu qui est de révéler, de donner, de répandre son amour, de pourvoir de multiples façons. Alors l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je reviens, je te redis que tu es le berger Seigneur, le berger de mes finances, le berger de mon affection, le berger de mes émotions, de mes entrailles, le berger de mes relations. Mes relations amicales, mes relations dans ma famille, mes relations à l'autorité, dans le travail, avec les collègues. Ma vision du monde. Seigneur, sois le berger. Sois le berger de tout ça. Alors, je vais prier avec vous pour finir ce temps. Seigneur, aide-nous à aimer comme tu aimes. Nous te redonnons nos vies, Seigneur. Tu es le berger de nos cœurs, de nos finances. Redeviens le berger en tout cas. Aide-nous à aimer comme tu aimes. Que nos entrailles ne soient plus fermées, mais qu'elles s'ouvrent avec compassion pour nos prochains. Redonne-nous, Seigneur, la confiance, la foi que tu vas pourvoir. Merci Jésus pour ton amour pour moi. Je mets toute ma confiance en toi. Je veux voir le passé en regardant toutes les fois où tu as pourvu et en fixant pas mes regards sur les manques. Je veux regarder toutes les fois où tu as pourvu, où tu as été mon berger et mettre ma foi que tu continueras de le faire. Donne-moi, Seigneur, un cœur généreux. Donne-moi de ne pas fermer mes entrailles quand je vois mon prochain dans le besoin. Si tu m'as donné les biens dans ce monde, de l'argent, une maison, des amis, permets Seigneur que je le partage largement avec tous ceux qui en ont besoin. Aide-moi Seigneur à ne pas vivre pour moi-même, mais à vivre en manifestant ce que tu es et en trouvant ma joie dans le fait de donner. Oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je veux, Seigneur, connaître cela. Je veux rentrer à l'intérieur de ton plan, de cette générosité dont tu es le chemin et dont tu nous montres comment faire. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Soyez bénis, encouragés, et je prie vraiment pour vous que vous puissiez voir les fruits de ce positionnement et voir les fruits du fait qu'en mettant Dieu à la première place et en donnant sans crainte, vous ne manquerez de rien. À bientôt.